L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Alors, le thème dont on va parler aujourd'hui, c'est comment expérimenter la présence de Dieu. Je pense que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà goûté, expérimenté un certain degré de la présence de Dieu. J'aimerais vous encourager, nous encourager ce soir, et qu'on ne vive pas dans le passé en se disant ce que Dieu a fait une fois avec nous lorsqu'on était dans cette chambre, lorsqu'on était dans cette église, cette touche particulière, que ce soit simplement dans nos souvenirs. Mais Dieu veut qu'on vive sa présence chaque jour. Et Dieu en réserve des choses encore bien plus grandes pour nous, et on va le vivre. Vous savez, tout le monde est qualifié pour vivre la présence de Dieu. Mais on vit dans une époque différente de celle de l'Église primitive. On vit dans une époque où les chrétiens s'assoient de plus en plus, et les chrétiens regardent aux leaders, regardent à ces grands hommes de Dieu, qui sont malheureusement de plus en plus idolâtrés. Et les chrétiens se disent, si lui ne le vit pas plus la présence de Dieu, pourquoi moi, petit chrétien que je suis, dans ma chambre, dans ma vie, je vivrai davantage plus que mon leader, plus que ces hommes que je connais. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui et vous dire simplement que ce n'est pas parce que les personnes autour de vous ne vivent pas grandement la présence de Dieu, ou parce que vous regardez au leader et vous pouvez vous dire, la présence de Dieu, c'est ce qu'il vit, donc vous mettez cette limite. Non, on devrait mettre comme limite à la présence de Dieu la personne de Jésus-Christ. Ce que Jésus vivait avec le Saint-Esprit, la puissance qui était sur lui, la vie du Saint-Esprit qui était au travers de lui, devrait être notre standard et là où on fixe nos yeux. Mais on ne devrait pas limiter nos regards pour notre vie personnelle à qui nous sommes par rapport à nos leaders. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que peu importe qui vous êtes, grand-père, grand-mère, jeune, moins jeune, étudiant, riche, pauvre, peu importe, Dieu ne regarde pas à votre position dans l'Église. Dieu ne regarde pas à votre condition financière pour décider de manifester sa présence dans votre vie. Dieu ne regarde pas à votre passé, ni dans le naturel où vous en êtes. Dieu regarde au cœur. Et votre cœur peut toucher Dieu. Votre cœur peut amener sa présence tellement fortement dans votre vie. Et vous pouvez marcher chaque jour avec sa présence. Il y a la présence de Dieu qu'on peut ressentir parce qu'on est né de nouveau. La paix et la joie qu'on peut ressentir. Mais il y a aussi, et c'est ce qu'on désire, cette présence tangible de Dieu qu'on voit dans la Bible ou qu'on a pu goûter parfois. Cette présence qui devient tellement réelle et tellement forte que notre corps ne peut plus le supporter, que nos émotions sont même ébranlées, que les larmes viennent, que de notre être intérieur, des cris jaillissent, des cris impulsés par le Saint-Esprit, que de notre bouche sortent des prophéties tellement on est rempli de sa présence, que de notre bouche sortent des louanges et des actions de grâce, des cantiques nouveaux qu'on n'a pas encore expérimentés parce que sa présence devient tellement forte et tangible. Et c'est de cette présence dont Dieu nous parle ces derniers temps. Vous savez, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 19 à 22, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Dans ce passage, l'apôtre Paul va parler de beaucoup de choses concernant le retour de Jésus. Il dit « Jésus revient bientôt, vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais soyez veillés. Ne soyez pas surpris comme un voleur qui vient en pleine nuit. Veillez, restez dans la sainteté, soyez prêts à rencontrer votre Dieu. » Il parle de toutes ces conditions qui attristent le Saint-Esprit. Mais ici, il en parle d'une. Il dit, n'éteignez pas l'Esprit, le Saint-Esprit, en ne méprisant pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Il y a une chose qui peut faire éteindre ce que Dieu a commencé à faire au milieu de nous. Une chose, c'est que nous méprisons la voix du Saint-Esprit, que nous négligeons ce que le Saint-Esprit nous a dit ces dernières semaines au travers des prophéties qu'il nous a données, que nous méprisons ce que le Saint-Esprit a dit au travers des prédications qu'il nous a données. Parce que le Saint-Esprit nous a parlé ces derniers temps, frères et sœurs, au travers de l'Église. Et il a dit, inspiré le pasteur Joël, à prêcher, enseigner sur l'intimité avec Dieu pour vivre sa présence. Et vous voyez, lorsqu'il a commencé à communiquer cette pensée à notre pasteur, et que le pasteur a commencé à la communiquer, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait immédiatement ? Il a commencé à mettre le doigt sur certaines choses. Plusieurs personnes dans l'Église, et pas simplement les leaders, pasteur Joël a eu une inspiration avant qu'il ne prêche. Et le Saint-Esprit a parlé par lui concernant la sainteté. Avant qu'il ne parle, le Saint-Esprit m'avait communiqué également une parole sur la sainteté. Puis le Saint-Esprit a communiqué une parole concernant ceux qui vivent dans le péché également à pasteur Jérémie. Et plusieurs frères et sœurs dans l'Église avaient reçu la même parole la veille ou je ne sais plus quand. Parce que le Saint-Esprit voulait dire, ok, vous voulez vous approcher de moi, vous voulez vivre plus de ma présence, vous voulez plus de moi, mais avant tout, il faut savoir une chose, c'est que je suis saint, que le Saint-Esprit est saint. Et le Saint-Esprit a commencé à donner des directives pour qu'on vive plus de sa présence. Il a commencé à parler de ceux qui vivaient dans le péché dans l'Église. Et le Saint-Esprit a dit, détournez-vous de vos péchés. Détournez-vous de vos péchés. Renoncez à ce qui est mal. Puis après, le pasteur a voulu continuer encore dans la même série. Et le Saint-Esprit, cette fois, a parlé encore. Il a enseigné sur le fait de nettoyer nos cœurs, nettoyer nos pensées. C'était dimanche passé. Encore une fois, le Saint-Esprit nous parle prophétiquement au travers du message, mais également au travers de prophéties, au travers d'exhortations, pour nous dire ce qu'il faut que nous fassions pour que la présence de Dieu s'intensifie dans notre Église. Souvenez-vous, l'un des leaders a parlé d'augmentation. Le Saint-Esprit lui a dit, je vois l'augmentation, l'accroissement de la présence de Dieu au milieu de nous. Puis Dieu a continué à parler. Puis on a eu une prophétie. Dieu a dit qu'il allait venir, qu'il allait nous visiter, qu'une vague de sa présence allait venir. Donc vous voyez, nous devons ne pas mépriser ces choses, mais les considérer, les examiner et retenir ce qui est bon. Vous savez, une chose qui peut attrister le Saint-Esprit, c'est que on est là et on néglige ce qu'il nous dit. On néglige ses avertissements. Et on se dit, non, les prophéties, c'est dangereux, je préfère pas aller mettre mon pied là-dedans. Je préfère pas trop, je préfère rester tranquille. Mais quand on le fait, et que le Saint-Esprit a parlé, si on ferme notre cœur à cela, si on ne considère pas cela grandement, on attriste le Saint-Esprit. On l'attriste. Et en plus de l'attrister, on le freine et on l'éteint au milieu de nos réunions. Vaut mieux que si vous avez une conviction à l'intérieur de vous, que Dieu vous parle, qu'il y a quelque chose dedans de vous, que vous alliez voir le pasteur, que vous lui donniez, que vous parliez et que vous donniez ce que vous avez reçu sur votre cœur plutôt que de ne rien faire. Parce que si vous faites les choses avec conviction, même si vous vous trompez un peu, vous prenez un risque, vous vous trompez, vous faites les choses par conviction et vous n'attristez pas le Saint-Esprit. Si par contre, on ne fait absolument rien, on ne s'ouvre pas aux choses de l'Esprit et on se ferme parce qu'on se dit « Non, je ne me mets pas en disposition de recevoir, non, je ne me mets pas en disposition de donner les dons que le Saint-Esprit a mis en moi, ce que le Saint-Esprit a déposé en moi. » On éteint son feu à l'intérieur de nous et on ne reçoit rien et on ne donne rien par peur. Il faut, frères et sœurs, qu'on ne méprise pas les dons que le Saint-Esprit nous a donnés. Il ne faut pas mépriser ce que tu as reçu, mais il faut t'ouvrir à ces choses et marcher par conviction. L'apôtre Paul dit qu'on prophétise en partie. Peut-être qu'il y aura des choses qui sont un peu inspirées par la tête, peut-être d'autres pleinement inspirées de Dieu. Mais si on fait les choses par conviction, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Amen. C'était juste une pensée que j'ai eue en venant dans la voiture. La présence de Dieu, on doit savoir qu'elle est une personne. La présence de Dieu n'est pas mécanique. On ne peut pas dire que si on prie et si on jeûne, on va expérimenter la présence de Dieu. Sinon, on se mettrait tous à genoux pendant 3, 4, 5 heures, on prierait tous les matins. Et mécaniquement, la présence de Dieu viendrait. Non, ça ne fonctionne pas comme ça et ça ne fonctionnera jamais comme ça. Il y a des églises qui ont connu des réveils en prenant une certaine direction. D'autres églises ont voulu prendre la même direction et n'ont rien vécu du tout. Certains croyants ont vu d'autres personnes autour d'eux expérimenter la présence de Dieu dans l'intimité. Ils priaient, ils étaient visités, ils se sont dit « moi je vais faire la même chose, je vais prier ». Ils prient et il ne se passe absolument rien. La présence de Dieu n'est pas pour autant tangible dans leur vie. Ils ont l'impression qu'il ne se passe rien, toujours aussi sec. Parce que la présence de Dieu, frères et sœurs, n'est pas une chose. Elle n'est pas un objet. Elle n'est pas une sensation. Elle est une personne. Une personne qui a un cœur. Une personne qui a des émotions. Une personne qu'on peut attrister, qu'on peut plaire, qu'on peut réjouir, qu'on peut attirer, qu'on peut toucher. Et le Saint-Esprit se laisse toucher par notre amour. Et il est important, avant de parler de la présence de Dieu, que ce soit clair pour nous tous. La présence de Dieu n'est pas un feeling. Elle n'est pas une sensation. La présence de Dieu, c'est une personne, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit décide de rendre visite à quelqu'un dans le domaine tangible de sa vie, c'est parce que sa personne l'a décidé. Ce n'est pas il est là et il envoie un petit vent qui se balade, une petite brise qui se balade. Non, c'est lui qui est là. Vous comprenez? Donc quand on parle d'expérimenter la présence de Dieu, on parle d'expérimenter une personne. La personne de Dieu. La personne de l'Esprit de Christ, l'Esprit du Père, celui que Jésus nous a envoyé et nous a laissé, ce précieux Saint-Esprit qui est en nous. Si on ne comprend pas cela, on n'a vraiment rien compris. Si on ne comprend pas cela, on ne pourra pas y arriver. Parce que ce n'est pas mécanique, A plus B va donner ça. C'est une personne, une relation, une intimité, un désir, une compréhension. Et le Saint-Esprit regarde à notre cœur. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Jacques, au chapitre 4 et au verset 8. Jacques, chapitre 4 et le verset 8. Jacques semble être un homme, l'apôtre Jacques semble être un homme dur dans ses épîtres. Mais ce n'est pas un homme dur, c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que l'apôtre Jacques va parler en ces termes. Et il dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On connaît bien ce verset, n'est-ce pas? Mais on l'a sorti de son contexte. On a oublié tout ce qu'il dit avant et on a oublié tout ce qu'il dit après. Jacques savait une chose. Si on s'approche de Dieu, il faudra s'approcher de Dieu d'une certaine façon, dans une certaine condition. Et il va nous parler avant et après de ces conditions. Et il dit, alors Dieu s'approchera de vous. Mais il ne s'agit pas simplement de fléchir les genoux et de prier. Et Dieu s'approchera de nous. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il dit, purifiez vos mains, pécheurs. Et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère. Menez deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne médisez pas les uns les autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Et on peut voir au verset 4, il dit également « adultère ». Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous ?» Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Donc ici, l'apôtre Jacques nous dit de nous approcher de Dieu, il s'approchera de nous. Mais il nous dit également comment on doit s'approcher de Dieu pour que Dieu s'approche de nous. Il parle de pécheurs. Il parle d'adultère. Mais savez-vous qu'à ce moment-là, Jacques est en train de s'adresser à des chrétiens nés de nouveau ? À des chrétiens nés de nouveau, à des enfants de Dieu. Et il demande aux enfants de Dieu qui sont dans la joie que leur joie se transforme en larmes, que leur rire se change en deuil, que leur joie se transforme en tristesse. Reconnaissez votre misère. Humiliez-vous devant le Seigneur. Voilà les conditions que l'apôtre Jacques donne pour que Dieu s'approche de nous. Et je vais rentrer plus en détail sur ce que Jacques dit. Mais remarquez au verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Remarquez, c'est ce qu'on a commencé à faire à l'Église. C'est le message que le pasteur nous a donné. Puis, juste après, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit ? Il a pointé du doigt ceux qui vivent dans le péché et leur a demandé de vivre dans la sainteté. Purifiez vos mains pécheurs. Exactement la suite. Puis, dans le message de dimanche passé, et le Saint-Esprit nous a encore exhorté également à nettoyer nos cœurs. Et c'est la suite de ce verset. Et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Pour vivre et expérimenter la présence de Dieu plus grandement dans notre vie, ce serait une erreur de croire qu'il faut juste simplement prier. Pour vivre et expérimenter la présence du Saint-Esprit de manière tangible dans notre environnement naturel, il va falloir créer dans notre environnement naturel une atmosphère de sainteté. Une atmosphère de sainteté. Et vous savez, l'apôtre Jacques, on peut se dire, ça ne nous concerne pas. Mais je vous assure, si Dieu, là, par le Saint-Esprit, nous montrait l'état de notre cœur à nous tous, on serait en train de gémir et de pleurer par terre, tellement on se sentirait égoïste, tellement on se sentirait rempli de nous-mêmes, tellement on se sentirait avec certaines convoitises au-dedans de nous, tellement on se sentirait loin du cœur de Dieu. Et à ce moment-là, quand le Saint-Esprit ouvrirait nos yeux pour qu'on voit l'état de notre cœur, on se dirait « misérable que nous sommes ». Mais aujourd'hui dans nos églises, et c'est vrai, oui, nous sommes des saints. Oui, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes des plus que... C'est vrai. Oui, vous êtes des vainqueurs de géants, des tueurs de... C'est vrai. Oui, vous êtes Christ en vous. C'est vrai. Mais ça... C'est notre position grâce au sacrifice de Jésus. Mais si le Saint-Esprit ouvrait nos yeux sur notre condition, pas notre position céleste, pas notre position spirituelle devant Dieu le Père au travers de Jésus, mais s'il ouvrait nos yeux sur notre condition, frères et sœurs, on serait tous par terre en train de gémir en cet instant. On serait tous en train de pleurer et de se lamenter parce qu'on se sentirait tellement misérable. Dieu merci pour notre position qui fait qu'on peut s'approcher du Père dans la prière. Mais si on veut tangiblement vivre la présence du Saint-Esprit, 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 il va falloir se souvenir qu'il est saint, qu'il est trois fois saint, qu'il est très, très, très saint. La manière dont nous allons sanctifier notre vie dans notre condition, la manière dont nous allons sanctifier l'atmosphère qui nous entoure, va déterminer le degré de la présence de Dieu dans notre vie. Ici, l'apôtre Jacques parle de deux clés, deux conditions plutôt. La prière, l'intimité avec Dieu, mais il parle aussi de la sanctification. Vous savez, la sanctification dans notre position, ça ne dépend pas de nous, c'est Dieu qui le fait, et il l'a fait en Jésus-Christ, et il continue à le faire. Mais pourtant, Jacques dit que nous sommes des pécheurs. Est-ce qu'on est des pécheurs ? Dans notre position, non, nous sommes saints. Mais dans notre condition, oui, nous sommes des pécheurs. Donc l'apôtre Jacques a raison. Mais vous voyez, notre condition, elle est sur terre. Elle est là, maintenant. Elle est dans nos pensées, dans notre bouche, dans nos actions, dans ce que nos mains touchent, dans ce que nos paroles disent. Ça, c'est notre condition. Et notre position, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, lavés par son sang, purifiés, avec un libre accès devant le Père. Ok, dans la prière, nous avons accès au Père. Ok, le Saint-Esprit est dans notre esprit, scellé dans notre esprit, enfermé dans notre esprit. Il n'y a rien qui puisse venir entrer dans notre esprit et souiller notre esprit. À notre nouvelle naissance, nous sommes nés de nouveau. Notre esprit a été recréé et le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit. Et il est bien dans notre esprit. Mais ce dont nous parlons, c'est d'expérimenter sa présence, pas dans notre esprit. Ce dont nous parlons, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas expérimenter la présence de Dieu dans son esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est expérimenter cette présence de Dieu dans notre esprit qui quitte la dimension spirituelle, qui quitte le lieu du positionnement et qui va passer dans notre âme, déborder dans notre âme et déborder dans notre corps au point de devenir tangible dans nos émotions, tangible dans notre façon de penser, tangible dans nos raisonnements, tangible dans notre langage, tangible dans les gens que nous touchons, tangible dans l'atmosphère que nous véhiculons. Il y a des hommes de Dieu qui rentrent dans une pièce et l'atmosphère de la pièce change. Jésus arrivait à un endroit et le simple endroit où il était, les démons se manifestaient et venaient vers lui. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu n'était pas simplement dans son esprit, dans une dimension spirituelle. Non, la présence de Dieu quittait son esprit, débordait dans son âme, dans son corps. Il était en tout temps rempli du Saint-Esprit et cette présence, il en était imbibé de tout son être, esprit, âme et corps. Vous voyez, frères et sœurs, le Saint-Esprit est bien en nous, dans notre esprit, parfaitement saint, parfaitement recréé, parfaitement lavé par le sang de Jésus, parfaitement recréé notre esprit, pur et sans tache. Il est bien, aucun problème. Mais si on veut faire quitter la présence du Saint-Esprit de notre esprit pour qu'elle déborde et jaillisse comme des fleuves d'eau vive dont parle Jésus, qui jaillissent de notre esprit, il va falloir sanctifier l'âme. Il va falloir sanctifier le corps parce que l'esprit est sanctifié, pas grâce à nous, grâce à Jésus, grâce à son sang, grâce à la recréation. Mais l'âme, non. Le corps, non. Frères et sœurs, l'apôtre Jacques nous dit dans ce passage, approchez-vous de Dieu, mais nettoyez vos cœurs, purifiez vos mains. En gros, il dit, Sanctifiez votre corps. C'est ce que dit. Purifiez vos mains. C'est ce que le Saint-Esprit nous a dit. Qu'il n'y ait plus de péché en action dans nos vies, dans notre condition. Qu'on vive dans la sainteté, qu'on marche dans la sainteté. Nettoyez vos cœurs. Là, il parle de l'âme. Il parle de l'être intérieur. Il parle de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté. Il dit, nous, chrétiens, nous sommes des âmes partagées. Comme il le dit au verset 4, un pied dans le monde, un pied avec Dieu dans l'âme. Une âme dans le monde, une partie de l'âme dans le monde, une partie de l'âme dans le royaume de Dieu. Nous sommes partagés. Mais si nous voulons, frères et sœurs, aller loin avec Dieu, il va falloir ne pas mépriser ce que le Saint-Esprit nous a dit. Il va falloir sanctifier notre vie. La sanctification dans notre position, c'est Dieu qui s'en occupe. On n'a rien à faire. Mais Pierre, l'apôtre Pierre, va dire « Soyez saints, parce qu'il est saint ». Là, il ne parle pas de votre position en Christ. Il parle de notre condition dans le naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Et c'est aussi de ce dont Jacques parle. Sanctifier notre vie. Si nous le faisons, nous allons créer une atmosphère propice où le Saint-Esprit sera bien, où le Saint-Esprit va déborder de notre esprit et couler dans notre âme, couler dans notre corps, couler autour de nous, et nous allons aller apporter sa vie partout. Mais il faut se sanctifier. Et l'apôtre Jacques dit, humiliez-vous. Parce que beaucoup de croyants aujourd'hui se disent, nous avons le Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle, nous avons la parole, nous avons les enseignements. Mais qu'en est-il de la présence de Dieu manifestée en dehors de notre esprit? Cela dépend aussi de notre sanctification. Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, Dieu ne plaisantait pas avec la sainteté. Et vous savez que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aussi saint Dieu était dans l'Ancienne Alliance, vous pouvez lire Lévitique, vous verrez à quel point Dieu est propre. Aussi saint il l'est dans l'Ancienne Alliance, aussi saint il l'est aujourd'hui. Mais quelle est la différence? Dans l'Ancienne Alliance, il y avait le jugement quand il y avait transgression, parce que Jésus n'était pas encore venu. Mais Jésus a été jugé à notre place, donc aujourd'hui il n'y a plus de jugement pour les transgressions. Un chrétien peut mentir accidentellement et regretter après, pardonner, pas juger. Un chrétien peut voler accidentellement, pardonner, pas juger s'il se repent et qu'il se tourne vers Jésus. L'avocat qui pardonne, le sang de Jésus qui purifie, c'est l'alliance de la grâce. Mais est-ce que Dieu est moins saint pour autant? Non. Est-ce que le Saint-Esprit de l'Ancien Testament, dans l'Arche de l'Alliance, dans le tabernacle, dans le lieu très saint, dans le temple, est moins saint que le Saint-Esprit qui habite dans notre esprit? Non. Mais dans notre esprit, le Saint-Esprit est à une dimension qui n'est pas accessible aux autres, qui n'est pas accessible à notre voisin. Dans le lieu très saint, le Saint-Esprit n'était pas accessible à tous. Dans l'Alliance aussi, l'Arche de l'Alliance aussi. Souvenez-vous de cet homme, lorsque David a voulu ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, lorsqu'il a été intronisé roi, couronné roi, il est allé chercher l'Arche de l'Alliance et puis il y a un homme qui est venu et qui a voulu, les bœufs ont glissé, l'Arche de l'Alliance a failli tomber et l'homme a voulu bien faire, il a voulu tout rattraper l'Arche de l'Alliance pour pas qu'elle ne tombe. Et l'homme est mort sur le coup, foudroyé, mort. Parce qu'on ne jouait pas avec la présence de Dieu, avec sa sainteté. Sa sainteté ne pouvait pas être en contact avec ce qui est impur. C'est pourquoi il y avait tout un rituel, même quand des lépreux malades voulaient être guéris. Il fallait que le lépreux, je crois que c'est dans Lévitique 4, il fallait que le lépreux vienne et suive tout un rituel de sanctification aux yeux de Dieu pour que la présence du Saint-Esprit puisse venir toucher ce lépreux et le guérir. Il fallait d'abord mettre du sang sur le lobe de son oreille droite, mettre du sang sur son pouce droit, mettre du sang sur son orteil. Le sang représente la purification des péchés sous l'Ancienne Alliance. Et après, le sacrificateur prenait l'huile qui représente la présence de Dieu, l'onction d'huile, et il mettait l'huile là où il y avait eu le sang qui était appliqué. Parce que le Saint-Esprit veut d'abord ne fonctionne que dans une atmosphère de sainteté. Vous voyez ? Il fallait purifier, que le sang purifie avant que l'onction du Saint-Esprit ne soit accordée. Moïse s'est retrouvé... en face de ce buisson ardent. Et puis, il y a eu une voix, la voix de Dieu qui a retenti dans le buisson. Et qu'est-ce que cette voix lui a dit ? Ôte tes souliers, car la terre ou le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Même Dieu demandait à Moïse d'ôter ses souliers. Pour vous dire à quel point l'exigence du Saint-Esprit concernant la sainteté n'est pas à négliger, à quel point elle est élevée. Si nous voulons voir dans notre Église la présence de Dieu s'intensifier, si nous voulons voir dans notre vie cette présence merveilleuse du Saint-Esprit s'intensifier dans la dimension naturelle de notre âme et de notre corps et de tout ce qu'on touche, il va falloir tout sanctifier, frères et sœurs. Il va falloir tout purifier. Je vous disais que être rempli du Saint-Esprit, on en a fait une belle illustration aujourd'hui dans nos églises. Être rempli du Saint-Esprit, c'est parler en langue. Non, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on parle en langue. Mais être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue. Parce que si on dit qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est parler en langue, ça voudrait dire que ça se limite et ça se résume à ça. Mais être rempli du Saint-Esprit, il y a des degrés. On peut très bien recevoir juste un petit peu de remplissage du Saint-Esprit et parler en langue. On peut recevoir plus d'une dose plus grande du Saint-Esprit et cela devient tellement insoutenable au-dedans de nous qu'on se met à agir sous l'impulsion du Saint-Esprit. Tout d'un coup, on voit une personne et il y a quelque chose au-dedans de nous qui nous saisit et qui nous fait courir vers cette personne et lui dire des choses ou lui imposer les mains. Tout d'un coup, on peut être dans notre chambre, mais on est tellement rempli du Saint-Esprit qu'on se met à chanter des choses qu'on n'a jamais chantées, à dire des mots qu'on n'a jamais exprimés. On peut être tellement rempli du Saint-Esprit que ces choses qui nous embêtaient dans notre vie depuis tellement longtemps, tout d'un coup sont brisées, ces jougs éclatent, ces maladies dans nos corps guérissent. Parce que cette présence du Saint-Esprit qui est en nous, et la Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Elle dit « il nous a donné ». Est-ce qu'il nous a donné ou pas ? Oui, il nous a donné. Est-ce que nous l'avons ? Oui ou pas ? Oui, nous l'avons. Mais nous l'avons dans notre position, nous l'avons dans notre esprit, mais nous ne l'avons pas dans notre âme et dans notre corps encore. Pour l'avoir, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir cette vie et cette piété que Dieu nous a donnée dans notre esprit, cette dimension spirituelle de notre être, dans notre sein, comme disait Jésus. Et tout d'un coup, ces fleuves jaillissent et débordent dans notre âme, jusqu'à ce que nos pensées commencent à saisir les choses de l'esprit. Notre intelligence commence à saisir les choses de l'esprit. Les révélations commencent à venir parce que la présence de Dieu commence à quitter l'esprit et à toucher l'âme, à toucher la volonté, à toucher les émotions, à toucher notre intelligence et nos pensées. Elle commence à impulser des nouvelles actions dans notre vie qu'on ne faisait pas. Elle commence à nous faire ressentir dans notre corps des choses qu'on ne ressentait pas. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut que ça déborde, frères et sœurs. Et souvenons-nous, le Saint-Esprit est saint. Et pour, je ne parle pas d'une expérience ponctuelle, mais pour demeurer et résider dans la présence de Dieu, parce que ce serait un échec pour nous si le Saint-Esprit nous visite une fois et c'est fini après. Ce serait un échec, même individuellement, que le Saint-Esprit nous visite une fois et que ce soit fini après. Parce qu'il y a ce désir dans le cœur de Dieu de venir visiter son enfant, de venir visiter son épouse à chaque rendez-vous. Je me souviens de cet homme finé qui avait vécu une expérience avec Dieu. Et il disait qu'il était tellement rempli que quand il rentrait dans un magasin, les gens étaient convaincus de péché. Il ne disait rien. Il ne parlait pas. Mais sa simple présence faisait que les gens se convertissaient et pleuraient sur leurs péchés. Frères et sœurs, la présence de Dieu débordait tellement de lui qu'elle touchait son environnement. Et tout à coup, après cet homme, allait dans un autre endroit. Et ça arrêtait de se produire. Et il disait, il fallait vraiment que j'aille dans le lieu secret, que je fléchisse mon genou et que je m'humilie devant mon Dieu pour que cette présence de nouveau jaillisse et qu'ils se reproduisent les mêmes choses. C'est ce dont nous parlons. Et c'est accessible pour chacun d'entre nous. J'étais un jeune étudiant. Je venais d'entendre des choses sur le Saint-Esprit. Et j'ai eu simplement soif et j'ai commencé à les vivre. Ça n'a rien à voir avec mon appel. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'un jour je prêcherai ou que j'enseignerai. Pasteur Jérémy pourrait vous raconter comment il a été visité dans sa chambre. Plusieurs fois, dans des temps d'intimité, ça n'a rien à voir avec lui. Ça a à voir avec la soif de notre cœur, avec notre désir et avec la sanctification. Remarquez une chose, chaque fois que je suis rempli du Saint-Esprit, il y a une chose que je ne supporte pas, même auprès de ma femme, c'est qu'elle me parle d'un point négatif dans la vie de quelqu'un. Mais je ne supporte pas ça. Pourtant, le même Michael, non rempli du Saint-Esprit, vas-y, parle, j'aime bien un peu. Ça attise quelque chose dans la chair, une envie de savoir les défauts des autres. Mais quand je suis rempli du Saint-Esprit, je ne veux surtout pas, et parfois, elle aussi, elle m'a fait la même réflexion, ça va dans les deux sens. Parfois, j'ai dû lui dire, chérie, je ne veux plus t'entendre parler de cette personne. Je ne veux plus rien entendre sur cette personne. Elle aussi, elle le fait, hein. C'est pas juste. C'est que, il y a des moments où on est rempli et il y a des moments où on ne l'est pas. Mais à des doses différentes. Mais tout ça pour vous dire que à quel point le degré de sanctification peut être relatif. Tout est relatif. Oui, on peut dire, avec qui nous sommes des bons chrétiens. On est bien enseigné. On a fait l'IBM, on a des bons enseignements, des enseignements de victoire, des enseignements de foi, des enseignements bons, de la bonne doctrine. Mais c'est relatif. Si Dieu ouvre nos yeux sur notre condition actuellement, on serait tous en larmes, en train de pleurer par terre. Vous voyez ? Vous voyez ? Nous avons encore des progrès à faire. Non pas dans notre position. Certes, dans la révélation de notre position, on peut avoir des progrès à faire. Oui, je sais qui je suis en Jésus. Purifié, lavé par son sang, sauvé, par grâce. Mais nous avons des progrès à faire dans la révélation de notre condition. Parce que si on veut que le Saint-Esprit se mêle des choses naturelles, je suis en train de me souvenir de ce qu'un frère m'a dit un jour. Il était rempli du Saint-Esprit et il me disait, frère, ça fait bizarre de te dire ça, mais je me sens saint. Il expérimentait de plus en plus la présence de Dieu dans sa vie et ce qu'il me disait, je me sens saint. Et au premier abord, ça m'a paru bizarre. Parce que j'ai dit, moi aussi, je suis saint en Christ. Tu voudrais t'approprier des efforts de ce que la grâce de Dieu te donne. Mais je réalisais qu'il commençait à de plus en plus cohabiter avec le Saint-Esprit dans une dimension naturelle. Parce qu'il sanctifiait son environnement Il sanctifiait son âme, il sanctifiait son corps, il sanctifiait ses actions, il sanctifiait ses paroles. Et le Saint-Esprit se manifestait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, frères et sœurs, retournons à ce que Jacques dit un peu. Il dit, purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ici, on voit une chose. C'est le fait de s'humilier. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas impressionné par les croyants qui arrivent devant lui avec une âme forte. Je veux dire par là, non pas que le fait d'avoir l'âme qui se lamente ou l'âme qui ne marche pas dans la victoire, je ne parle pas de ce genre d'âme forte. Quand on s'humilie, notre âme est faible, notre âme est brisée. Quand l'âme est forte, on n'a rien besoin de changer, tout va bien, on est satisfait. Ici, l'apôtre Jacques, en parlant d'humilité, parle du fait d'avoir l'âme qui se brise, du fait de ne pas rester dans la zone de confort, dans le statu quo. Je suis un bon chrétien, je suis bien tel que je suis. Parce que quand l'âme d'un homme est brisée, c'est à ce moment-là qu'elle est sanctifiée. C'est à ce moment-là qu'elle est dépourvue de tout orgueil. Les fois dans ma vie où j'ai eu des humiliations, j'ai prêché, c'était un mauvais message. Je suis rentré chez moi, j'avais l'âme brisée. La présence de Dieu était beaucoup plus forte que quand je prêchais. Parce que quand tu as l'âme brisée, tu n'es plus centré sur toi. Je ne parle pas de l'âme qui souffre, hein. Je ne parle pas des souffrances. Je parle d'une âme qui ne pense pas à soi. D'une âme qui ne ressent plus les choses du monde. D'une âme qui n'a plus de convoitise. D'une âme qui n'a plus d'attente personnelle. Je parle d'une âme qui est vraiment brisé. Vous voyez, c'est comme si vous entreprenez quelque chose, vous vous battez, tous les gens vous regardent et vous dites « Oui, oui, je suis quelqu'un parce que regardez ce que je fais, c'est bien. » Et puis, tout d'un coup, tout se casse la figure. Vous avez l'âme brisée. Comme, pas découragé, pas anéanti. Je ne parle pas de ça. Je parle de, genre, tout d'un coup, le piédestal sur lequel vous pensiez être. Tout d'un coup, ces choses qui faisaient votre identité et dans lesquelles vous vous retrouvez, je suis quelqu'un parce que j'ai... Tout d'un coup, tout s'écroule et votre âme se tait parce qu'elle est brisée. Et à ce moment-là, vous commencez à ressentir davantage la présence de Dieu. Vous commencez à prier et les simples premières paroles de vos prières vous transportent dans la présence de Dieu. Et les larmes viennent, non pas des larmes parce que vous avez subi une humiliation, mais je parle que votre âme est disposée. Elle est comme purifiée de tout ce qui est mauvais et le Saint-Esprit peut couler. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans nos vies, nous avons tellement de choses sur lesquelles notre âme s'appuie. Ma maison, mon travail, mon ministère, mes prédications, mes commentaires, mes nombres de vues, mes finances, mes projets. Tout ça freine. Tout ça ne sanctifie pas. L'âme doit être brisée. Notre volonté doit être brisée. Nos désirs doivent être brisés. Est-ce que vous avez déjà vécu... Où vous avez déjà vu des gens ils sont bien, tout joyeux, tout va bien, la vie chrétienne est merveilleuse, mais je ne vis pas plus de la présence de Dieu. Et puis, tout d'un coup, ils apprennent une très mauvaise nouvelle, vraiment une mauvaise nouvelle, genre, oh, j'ai une grave maladie, ou quelqu'un, membre de sa famille, de très proche, a une grave maladie, ou est à l'hôpital, elle a eu un accident de voiture, et tout d'un coup, votre âme est brisée. Tout ce qui environnait votre âme, salissait votre âme, occupait votre âme, toutes ces choses du monde, tout d'un coup disparaissent parce qu'il y a quelque chose qui est venu briser votre âme et attendrir votre cœur. Une mauvaise nouvelle. Et je ne parle pas de ce genre de nouvelles où vous êtes des chrétiens immatures, où on est des chrétiens immatures et on se met à pleurer, Seigneur, pourquoi ? Non, non, je parle de ceux qui maîtrisent la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle vient à nous, mais la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle brise notre âme. Elle réajuste nos regards sur ce qui est vraiment la priorité. Et là, on tombe à genoux et on sent de nouveau la présence de Dieu. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur contrit, de ceux qui ont le cœur brisé. Ça ne veut pas dire de ceux qui souffrent. Sans quoi il ne serait pas proche de ceux qui sont heureux. Non, ça veut dire que Dieu est proche de ceux qui ont cette disposition intérieure qui favorise la connexion avec le Saint-Esprit. Cette disposition intérieure qui sanctifie l'atmosphère pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a encouragés dimanche à renoncer à nous, à briser notre âme. C'est aussi une parole que Dieu nous donne et c'est aussi ce que Jacques dit dans ce passage. Humilions-nous. Donc tout commence, frères et sœurs, par le fait de ne pas être satisfait de ce qu'on vit. De ne pas être satisfait de qui on est, pas dans notre position, mais dans notre condition. Et de se dire là, non, ça suffit la vie chrétienne. Ça suffit les mains levées, dire Jésus, tu es tout pour moi. Ça suffit. Non, ma vie, moi, je suis mort en Christ. Je meurs avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça ne signifie pas être malheureux, ça signifie avoir l'âme purifiée. Vous voyez ce que je veux dire ? Jacques parle de l'amour du monde au verset 4. Il dit « adultère que nous sommes ». Adultère vis-à-vis de Dieu, pas adultère du fait d'aller voir d'autres personnes que notre conjoint. Il parle d'adultère vis-à-vis de Dieu. Il dit « ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Et là encore, tout est relatif. Tout est relatif. Non, nous, on n'aime pas le monde, on est des bons chrétiens. Tout est relatif. Si le Saint-Esprit ouvrait nos yeux, nous serions tous par terre en train de pleurer et de gémir et de réaliser à quel point le monde a une part importante dans notre être intérieur. Il dit, croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en nous ? Dieu aime l'Esprit Saint, le merveilleux Saint-Esprit qu'il a fait habiter dans notre esprit. Et quand Dieu voit que nous, on aime le monde alors qu'il nous a donné sa sainteté, son esprit, et que face au choix, il y a des chrétiens qui choisissent d'avoir l'âme partagée, comme Jacques le dit, entre les choses du Saint-Esprit, la sainteté, la sanctification et les choses du monde, Dieu jaloux. Comment c'est possible ? Les anges même ne comprennent pas cela. Comment c'est possible d'être à ce point, comme dans certaines églises, des chrétiens charnels qui vont voir un film, qui regardent un film où il y a des gros mots, des grossièretés, des choses, et ça ne les dérange pas. Tout est relatif, frères et sœurs. Quel est le degré de la part du monde en nous ? Avons-nous l'âme partagée ? Nos pensées sont-elles parfois les pensées du monde ? Nos désirs sont-ils parfois notre volonté, les désirs et la volonté du monde ? Nos émotions que nous ressentons sont-elles parfois les émotions que le monde ressent ? Si c'est le cas, alors oui, nous sommes éligible pour nous humilier devant Dieu et lui demander pardon et décider de sanctifier nos pensées, sanctifier notre volonté, sanctifier nos émotions. L'apôtre Paul va détailler tout ce que Jacques dit dans Éphésiens au chapitre 4 et au chapitre 5 en entier. Ça parle d'impureté. Nous qui aimons le monde, vous qui aimez le monde, il le dit. Ne savez-vous pas que ceux qui aiment le monde se rendent ennemis de Dieu, se rendent ennemis de la présence du Saint-Esprit dans leur esprit ? Rendre, mettre en place des hostilités dans leur vie au Saint-Esprit. Et on voudrait que le Saint-Esprit quitte notre esprit et vienne visiter notre corps. Et on voudrait que le Saint-Esprit nous remplisse de sa présence au point de guérir les malades et de toucher les gens et de les remplir du Saint-Esprit. Et on voudrait que le Saint-Esprit nous utilise. Et on voudrait ressentir sa merveilleuse présence. Mais on ne peut pas avec une âme partagée. Il faut un cœur tout entier, une âme tout entière pour Dieu. L'impureté dans le monde, la pureté et la sainteté avec le Saint-Esprit, c'est ça sanctifier. L'amour de l'argent dans le monde, sanctifier, c'est le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez, dit l'apôtre Paul. Mais non, notre âme, non purifiée, veut constamment prospérer. La prospérité est une bonne chose, mais le désir constant de vouloir de l'argent va éteindre la présence de Dieu. Il y a un frère qui me disait « Je ne ressens plus la présence de Dieu, je ne prie plus. » Mais ce frère ne fait que me parler de business. Je lui ai dit « Tu veux de nouveau ressentir la présence de Dieu ? Arrête d'aimer l'argent. Arrête de courir après l'argent. » Parce que ça pollue ton âme, tu dois la sanctifier. Le contentement. Dans le monde, le mensonge, les demi-vérités. Et je connais beaucoup de chrétiens et j'ai été comme ça. J'ai lutté longtemps avec ça, avec les demi-vérités. On ne dit qu'une partie de la chose parce qu'on ne veut pas que l'autre chose aille lutter contre notre faveur, contre ce qu'on veut. Alors, on ne dépeint qu'une zone, mais c'est du mensonge. Le mensonge n'a pas de part au-dedans de nous. Nous sommes des gens de lumière et de vérité. Frères et sœurs, si dans votre vie il y a encore du mensonge, la Bible nous encourage à sanctifier notre âme par la vérité. La convoitise, désir du succès, désir de plaire aux hommes. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils font les choses et ils s'arrangent pour que leur pasteur voie ce qu'ils font dans le secret. Ils veulent plaire à l'homme. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise avec ce genre d'âme. Ressentons notre misère, pécheur, dans notre condition. Humilions-nous, changeons d'attitude. Les paroles grossières, les insultes, frères et sœurs, dans notre église. Un jour, avec ma femme, on arrivait. Et pourtant, on sait que la parole est bien prêchée, hein. On a l'Institut biblique, on a les messages. Et puis une sœur de l'église que je connais, je ne peux pas vous redire ces gros mots, elle en a dit 3 en 4 mots. Je ne peux pas vous le dire, j'ai envie de vous dire pour que vous soyez choqués, mais je ne peux pas le dire. Mais des grossièretés dans le parking de l'église en train de dire à une autre sœur tout simplement parce qu'elle avait oublié une chose. Elle dit, ah, j'ai oublié, t'as oublié ça. Et là, une série de 3 grossièretés sort de sa bouche, mais des grosses grossièretés. J'étais dans une église à Paris, c'était mon église, et le pasteur prêchait des super messages, et là, avec ma femme, on garde la voiture, et puis il y a un chemin en marche, et là, il y a 2 sœurs de l'église qui lèvent les mains, qui adorent. Et puis là, elles sortent des abominations de leur bouche, des grossièretés, des gros mots, des vulgarités, des paroles malsaines. Comment c'est possible ? Comment peuvent-elles expérimenter la présence du Saint-Esprit dans leur vie ? Comment le Saint-Esprit peut-il être à l'aise avec ce genre d'âme et ce genre de corps ? Ce n'est pas possible. Les bouffonneries, les paroles déplacées, les excès de table, les blagues juste pour faire rire les autres. Vous savez, c'est bien. Ça met une bonne atmosphère. Mais je vous le dis, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, même les blagues qui sont inutiles ne favorisent pas l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Les propos juste pour faire rire les gens, les bouffonneries, elles ne favorisent pas l'action du Saint-Esprit. Mais Paul dit que s'il y a lieu, au lieu de bouffonnerie, il devrait y avoir de notre bouche des paroles de grâce, des paroles édifiantes, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous voulons créer une atmosphère propice de sanctification dans notre âme et dans nos paroles. Il va falloir sanctifier notre bouche, sanctifier nos blagues, même si parfois ça paraît être sérieux aux yeux des gens. Il y a des bonnes blagues, mais pas les bouffonneries. Plutôt, parfois, parce que vous savez, le Saint-Esprit n'est pas disposé toujours aux excès de table et aux blagues. Le Saint-Esprit, lui, ce qu'il a envie, c'est d'édifier celui qui est assis à côté de toi, de lui communiquer quelque chose, une grâce particulière. Et quand on commence à le faire, on crée cette atmosphère de sanctification. Et la présence de Dieu. Notre pasteur nous disait qu'à un moment donné, il était assis au restaurant avec un autre pasteur, un homme de Dieu qui venait à Miracle Channel. Miracle TV Channel, ok. Et ils sont allés au restaurant et ils ont commencé à parler de choses édifiantes. Et ils disaient la présence de Dieu était tellement forte dans le restaurant. Et l'homme de Dieu a dit, oui, c'est normal, on parle de choses édifiantes. On crée une atmosphère de sanctification pour le Saint-Esprit. Mais dans notre église, j'entends même dire qu'il y a des gens que quand leur propre leader les reprennent ou font une réflexion, ils vont parler dans le dos, dire des choses mauvaises au point de garder de l'amertume et de la rancœur en eux. Comment c'est possible? Est-ce qu'on n'a pas appris qu'il fallait sanctifier notre bouche, que le Saint-Esprit en nous est attristé par ce genre de comportement? On ne devrait plus être au stade dans notre église et dans nos vies où on devrait même se dire « Oh, je suis en train de dire quelque chose qui ne devrait pas être édifiant pour une autre. » On ne devrait même plus, tellement on est habitué à parler de choses édifiantes, à sanctifier notre bouche. Le manque de respect envers l'autorité. Certains sont partis et partent des églises en claquant la porte. Alors que le Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous envers notre autorité spirituelle. On a envie de lui faire du bien. On a envie de lui être agréable. On a envie de lui donner des cadeaux. On a envie d'investir dans sa vie. On a envie de garder ses enfants. On a envie de lui payer des voyages. On a envie de lui dire merci pour tout ce que tu fais. Merci d'être le berger de ma vie. Ces choses favorisent l'action du Saint-Esprit. Nous ne devons pas idolâtrer les hommes de Dieu, mais nous devrons les respecter, les honorer et avoir pour eux une haute considération et un grand respect. Ces choses sanctifient l'âme, sanctifient l'atmosphère et rendent dans notre Église une atmosphère propice à la présence de Dieu. Personne ne devrait être trop familier avec le leader. L'ingratitude. Dans le monde, c'est le manque de respect envers l'autorité. Dans le royaume de Dieu, c'est la soumission. Le monde, c'est l'ingratitude. Le royaume de Dieu, c'est la reconnaissance. Soyez reconnaissants en toutes choses. Le jugement, les moqueries. L'apôtre Jacques va dire au verset 11, « Ne médisez pas les uns des autres, frères. » Dans un passage aussi important, dans un passage aussi important où on parle du fait que Dieu s'approche de nous, Jacques avant et après parle de nos rapports entre frères et sœurs. Et Jacques va dire, « Ne méprisez pas votre frère et même ne jugez pas votre frère. Laissez Dieu faire son travail. Ne jugez pas. Ne prononcez pas sur un oui-dire. Faites comme Jésus. Ne prononcez pas sur un oui-dire. Ne médisons pas sur ce qu'un frère a fait. Ah, tu sais pas ce qu'un frère a fait. Tu sais pas ce qu'une sœur a fait. C'est mauvais pour le Saint-Esprit. On va dire, oui, mais t'exagères. Tout est relatif. Mais ce qu'on veut, c'est vivre sa gloire. Alors il faut se sanctifier. la médisance, la méchanceté. Le monde est méchant. Le monde rend le mal pour le mal. Le monde refuse de pardonner. Mais nous, Jésus a dit, même à notre ennemi, on doit le bénir. Même notre ennemi, on doit l'aimer. Même notre ennemi, on doit poser des actions de bonté envers lui. Et on amasse sur sa tête des chabots ardents. Peu importe, même s'il ne le mérite pas, l'amour parfait de Dieu, la bonté de Dieu va se manifester. C'est sanctifier notre âme, ça aussi. Et là, on se souvient de cette parole de Jésus qui dit « Quelle gloire y a-t-il à aimer ceux qui vous aiment ? Aimez vos ennemis. Nous aimons imparfaitement. Mais quand nous aurons sanctifié notre âme, purifié, nettoyé nos cœurs et purifié nos mains de tout péché, de toute mauvaise chose, la présence de Dieu va s'intensifier. Il dit nettoyer nos cœurs. Ça parle d'amertume, du fait d'être fâché et d'être en colère. Oui, on est souvent fâché. Oh, je suis fâché. Je suis en colère et on garde cette colère, on garde cette rancœur au-dedans de nous et ça nous pourrit de l'intérieur. Ça attriste le Saint-Esprit. Ça empêche sa présence de quitter votre esprit et de vous remplir. Frères et sœurs, s'il y a en vous, Joyce Meyer disait que quand elle fait un appel pour ceux qui ont de l'amertume et du manque de pardon, il y a plus de 80% à chaque fois de la salle qui se lève. 80%. 8 personnes sur 10, 800 personnes sur 1000, 8000 personnes sur 10 000 qui se lèvent parce qu'ils ont en eux de la rancœur. Donc j'imagine qu'ici, à moins qu'on soit très sanctifié, ça devrait être entre 50 et 80%. C'est ça, nous c'est moins, hein? Nous c'est moins, bien sûr. Ah oui, tout est relatif. Les paroles négatives, les attitudes négatives. Les paroles négatives, je vous assure. Écoute, récemment, ma femme est partie en Suisse. Et avant qu'elle parte, je lui disais constamment, chérie, j'en ai marre de programmer. Vous savez, je suis programmeur, je passe mes journées à écrire des lignes de code. Avec des bugs pas possibles, des problèmes avec certaines personnes. C'est vraiment horrible, 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 horrible. Je rentre chez moi et j'arrive pas à me déconnecter des fois. Et mon fils m'aide à déconnecter, et vraiment c'est une bénédiction quand je joue avec lui, mais c'est pas facile. Et je disais souvent à ma femme, ouais, voilà, il y a eu ça. Et mon âme constamment, non brisée, non purifiée, veut être, comme le pasteur l'a dit dimanche, à un autre endroit. Parce que Dieu m'a montré là où je dois être. Et mon âme veut être là-bas, alors je vais me plaindre. Chérie, je veux plus programmer pour Enseigne-moi. Chérie, je suis fatigué. Et vous savez ce que ça fait ? Ça fait diminuer la présence de Dieu dans ma vie. Ça fait diminuer la joie dans ma vie. Et j'ai commencé à changer. Et vraiment, et jusqu'à ce jour, j'ai changé. Même si c'est dur, j'ai dit à ma femme, et je dis, je suis content de travailler pour Enseigne-moi et de programmer. Je suis content de donner mon meilleur pour le Seigneur, et j'aime ça. J'ai commencé à changer ma confession en accord avec ce que je ressentais, et j'ai commencé à dire ce que je ne ressentais pas, et j'ai fini par ressentir ce que je disais. Vous voyez ? Les paroles positives créent une atmosphère. Et d'ailleurs, depuis que je commence à faire ça, je ne prie pas forcément plus, mais je sens une atmosphère spirituelle plus autour de moi. Je sens mes sens spirituels plus aiguisés. Pourquoi ? Même si je travaille encore plus, parce que mon âme me pollue moins. Mon âme se sanctifie et le Saint-Esprit commence à se sentir mieux. Vous voyez ? C'est cela, être rempli du Saint-Esprit. Les paroles négatives et les attitudes négatives vont freiner sa présence. Alors faisons attention à ce que nous disons. la peur, et Jacques nous dit l'orgueil spirituel dans Jacques 10. Humilions-nous devant le Seigneur et il nous élèvera. J'ai entendu parler qu'il y a même des chrétiens qui sont blessés. Parce qu'un dimanche, leur pasteur est passé à côté d'eux et ne les a pas salués. Cela a créé de l'amertume dans le cœur de ces personnes et a ouvert la vie à des mauvais esprits, entre autres. Dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 30, dans ce passage où Paul parle des choses du monde, de la chair, des œuvres de la chair, de toutes ces choses qui attristent le Saint-Esprit, comme on l'a dit, l'impureté, le mensonge, la convoitise, les paroles mauvaises, grossières, les bouffonneries, l'ingratitude, la médisance, la méchanceté, l'amertume, les paroles négatives, la colère, la peur, toutes ces choses, il dit au verset 4, au chapitre 4 et au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si nous l'attristons en ne créant pas cette atmosphère de sainteté dans la dimension de notre âme et de notre corps, nous allons l'attrister. Et si le Saint-Esprit est attristé, nous n'avons pas d'espoir qu'il se manifeste. Donc tout commence par le fait de nettoyer, de purifier ses mains, de nettoyer son cœur. Puis après vient la deuxième partie. La deuxième condition dont l'apôtre Jacques nous parle, l'intimité dans la prière. Et là, ça va être juste beaucoup plus court parce que c'est des choses qu'on connaît déjà plus, qu'on maîtrise plus, qu'on sait déjà. La sanctification et la prière. Mais prier, c'est quoi ? C'est s'approcher de Dieu. Et notre vie de prière, tout comme l'obéissance, est un bon baromètre pour savoir où on en est dans la passion et l'amour que l'on a pour Dieu et pour sa présence. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, comme l'a dit le Seigneur, nous allons avoir une vie de prière intense. Parce que lorsqu'on aime une personne, on est conduit vers cette personne, à s'approcher de cette personne et lui parler. Lui parler en tout temps. Et l'apôtre Paul dira dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 18, « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance, prier pour tous les saints. » Alors je sais que un homme de Dieu a dit, j'y pense, il a dit, si vous voulez humilier une personne, un grand homme de Dieu, si vous voulez humilier une personne, il n'y a rien de mieux que de lui poser la question suivante. Comment va ta vie de prière ? Parce que c'est un grand défi pour les chrétiens et de plus en plus aujourd'hui, dans une société où on travaille de plus en plus, dans une société où on est de plus en plus distrait par toutes sortes d'activités, de loisirs, d'émissions, de programmes, de chants, de sorties, de tout un tas de choses, de fatigue aussi, de virtualisation aussi, de Facebook aussi, de toutes ces choses futiles. Les gens se réveillent le matin et le premier réflexe est d'allumer le téléphone et de scroller leur mur Facebook à croire qu'ils vont avoir un tic bientôt et que leurs doigts, ils vont aller au travail, leurs doigts vont faire comme ça, tellement ils le font. Les couples sont dans leur lit, un à gauche, un à droite, et les deux sont comme ça, en train de scroller leur mur Facebook, en regardant leur téléphone bêtement pendant une heure de volée par Satan, une heure de prière et d'intercession volée par Satan. Une heure de communion avec le Seigneur volée, tout ça pour aller voir ce que le dernier petit ami a mis ou la petite copine a mis, ou l'ami a mis, le copain, le chum, a mis sur son mur Facebook ou le membre de sa famille. Oh, une nouvelle photo, j'aime, commenter. Oh, t'es drôle sur la photo. Mais... ces choses virtuelles nous volent nos temps d'intimité, de prière. Donc on vit dans une société où c'est de plus en plus difficile d'avoir envie de prier. Et Dieu merci, il y en a encore qui arrivent à discipliner leur chair, à aimer le Seigneur avec passion, que même si parfois ils retombent dans des choses futiles, ils se ressaisissent et remettent la priorité pour le Seigneur dans leur relation. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Marie. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Il y a une part que Dieu n'ôtera jamais. C'est la part où on se tient dans sa présence. Jamais il nous reprochera cela. Même s'il y a un grand travail à faire, même s'il y a une grande conférence d'évangélisation à donner, jamais aucun travail ne peut voler notre intimité avec lui, ne doit voler notre intimité avec lui. Et parce que je sais que c'est difficile, ici, on a un puissant conseil de l'apôtre Paul dans un verset qui va nous dire vraiment les secrets pour avoir une vie de prière constante, intense, profonde et en tout temps. Il dit « Priez en tout temps par l'Esprit ». Donc la prière va intensifier la présence de Dieu sur notre vie ainsi que la sanctification, mais encore faut-il prier. Et parfois, on est là, on prie, on commence à prier, on se met à genoux, nos pensées volent un peu à droite, qu'est-ce que je vais faire demain, je repense à ce que j'ai eu dans ma journée, puis bon, il nous faut un petit temps pour nous connecter, puis on expose quelques requêtes à Dieu, et puis on n'a plus rien à dire. Et la vie de prière devient difficile. Mais Dieu nous a donné un merveilleux don, le don du parler en langue, le don de prier en esprit. Et l'apôtre Paul dira avec beaucoup d'assurance et de conviction, en s'adressant à toute une église dans 1 Corinthiens au chapitre 14, il va dire « Je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. » Ah, il était sûr qu'il n'y en avait personne, il n'y en avait pas un qui priait plus en langue plus que lui. Et pourquoi il pouvait être sûr? Parce qu'il priait en langue tout le temps. Smith Wigglesworth, un grand homme de Dieu, a dit « Je ne prie jamais plus de 5 minutes. » Mais je ne passe jamais 5 minutes sans prier. Il prie tout le temps. On prie tout le temps. Comment prier tout le temps? C'est impossible de prier tout le temps avec notre intelligence. C'est impossible. Et ça va être nul et ennuyeux. À moins d'être comme Jésus et de peut-être ne pas avoir besoin de parler en langue, parce qu'on ne sait pas si Jésus parlait en langue quand il était sur terre, parce qu'il était tellement en communion avec Dieu. Mais souvenez-vous, Jésus n'avait pas de nature de péché non plus. Peut-être que Jésus parlait en langue, peut-être qu'il ne parlait pas en langue. Mais une chose est sûre, sa communion avec Dieu était parfaite, il savait quoi dire. Mais Jésus priait aussi en tout temps, avec son intelligence. Mais nous ne sommes pas Jésus. Et encore, je ne sais pas si Jésus parlait en langue. Mais, en tout cas, une chose est sûre, nous avons besoin de parler en d'autres langues. Parce que quand on parle en langue, ce n'est pas pénible, notre intelligence demeure stérile. C'est-à-dire qu'on peut parler en langue et cuisiner. On peut parler en langue et travailler. On peut parler en langue et faire des équations mathématiques en même temps. On peut parler en langue et lire un livre en même temps. Enfin, je suppose, hein. Oui, c'est possible. On peut, parce que notre intelligence est stérile, elle n'est pas utilisée. Donc Paul dit, je prie en langue plus que vous tous parce que je prie en langue tout le temps. Et là, il va dire aussi que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et souvenez-vous, le Saint-Esprit nous a encouragés il y a quelques dimanches, a dit « Prions en langue !» Prions en langue. Nous disons des mystères sur notre vie. Parfois, je prie en langue et ça devient intense. Et dans mon intelligence, dans mon âme, je commence à voir l'interprétation. Ça arrive pas tout le temps, je vous le dis, mais ça arrive parfois. Et je commence à entendre ce que je dis en esprit. Mais ce que je dis, c'est juste fabuleux. Une fois, je traversais la route en France, à Paris, et tout d'un coup, je me mets à parler en langue. Et je parle en langue, et je parle en langue. Et tout d'un coup, je me mets à parler en français. Et j'étais en train de prier pour la France, avec mes tripes, sans même m'en rendre compte. et de dire des choses pour la France et pour les pécheurs avec une grande compassion que je n'imaginais même pas. Une fois, j'étais dans ma chambre et je parlais en langue et tout d'un coup, j'ai eu l'interprétation de ce que j'étais en train de dire. Mais je peux vous dire, c'est glorieux. Je ne parle pas du parler en langue. Et à l'intérieur de votre tête, vous êtes en train de chanter un chant de Rihanna ou de Britney Spears ou de je ne sais quoi. Non, je parle d'un parler en langue. Donc Paul parle ici, c'est un vrai parler en langue. Vous vous engagez un minimum, même si votre intelligence demeure stérile, vous vous engagez un minimum. Et quand vous parlez en langue, le Saint-Esprit, vous pouvez lui demander, Saint-Esprit, aide-moi. Et vous pouvez rester des heures comme ça. Et vous alternez dans la prière, dans la présence de Dieu. Vous pouvez rester 2, 3, 4 heures sans problème. Et tout d'un coup, vous parlez en langue et un verset vient. Waouh, une inspiration nouvelle pour le verset. Et vous parlez le verset. Vous déclarez, vous rendez grâce à Dieu. Et la prière devient un art. Un art entre le parler en langue, un art entre toutes sortes de prières. Et il continue. Et il dit, avec toutes sortes de prières, en plus du parler en esprit, de prier en esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Ici, il parle de l'art de la prière d'intercession, la prière d'accord, la prière de louange, la prière de consécration. Vous avez fait l'IBM, vous savez ce que c'est. Tout ce genre de prière. Nous avons tout ça pour passer du bon temps avec le Seigneur. Mais en plus que tout, prier en langue, ça nous édifie, ça intensifie la présence de Dieu, ça fait dire des mystères sur notre vie et la vie des autres aussi, mais des choses qu'on ne peut pas saisir avec notre intelligence. Parce que la Bible dit que nul homme ne connaît ce que est dans le cœur de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme. C'est-à-dire, si là je regarde Martine, je ne sais pas ce que tu es en train de penser sur moi. Je ne sais pas ce que tu penses dans ton cœur. Mais toi, tu sais parce que ton esprit en toi sait. De même, l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit qui est en nous sait ce qui concerne le cœur du Père. Ça veut dire que le Saint-Esprit sait ce qu'il faut demander pour que le Père agrée notre prière, soit touché par notre prière et intervienne dans notre vie. Donc nous devons prier en langue et compter sur ce qu'il dit. Et quand on prie en langue, on doit vraiment, pour que ce soit efficace, en saisir toute la portée, toute l'importance, tout le travail qui est fait dans l'invisible et qu'on ne voit pas. Mais quand la Bible dit que les anges de Dieu sont à notre service et qu'ils opèrent en notre faveur, croyez-moi, lorsqu'on prie en langue, les anges de Dieu sont en train d'opérer en notre faveur et d'accomplir des choses, parfois qu'on ne voit pas dans l'immédiat mais qu'on verra une semaine plus tard. Mais parce que nous négligeons l'importance de ce don, nous prions peu en langue. Et parce que nous prions peu en langue, nous voyons peu de résultats. Et parce que nous prions peu en langue, les portes restent fermées, les obstacles restent en face de nous, et les jougs ne sont pas brisés, et les verrous n'éclatent pas. Parce que nous méprisons, mépriser c'est un peu fort, mais nous négligeons l'importance du parler en langue. Audrey Mack est venue un jour dans notre église, je crois, et elle a dit que elle a prié en langue pendant... Elle n'arrivait pas à rentrer dans le mariage. Et le Saint-Esprit l'a poussée à prier en langue pendant 3 mois, mais du matin au soir. Et surnaturellement, Dieu l'a conduit vers l'homme qui serait l'homme de sa vie pour le ministère particulier qu'elle a. Vous imaginez? Elle aurait peut-être prié par son intelligence. Seigneur, tu vois, je me sens seule. Seigneur, tu vois, c'est difficile pour moi. Seigneur, j'ai entamé des relations. Bon, je ne sais pas si elle a entamé des relations, mais en tout cas, imaginez, j'ai entamé des relations difficiles, ça n'a jamais abouti. Aucun homme ne me plaît dans ma région. Tu vois, Seigneur, je dois te servir aux quatre coins du monde. Qui va supporter que je sois jamais à la maison? Et là, Dieu dit, oh, parle en langue. Et là, le Saint-Esprit va inspirer une prière. Et on ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. Peut-être qu'elle est en train de prier pour le business de son futur mari, qui est en train d'agencer les choses dans sa vie pour que son mari devienne prospère et que son mari finance son ministère, parce que c'est le cas aujourd'hui. Peut-être que Dieu est en train d'aplanir des circonstances dans la vie de cet homme pour qu'elle se retrouve aux États-Unis dans une conférence, dans une église, et que cet homme soit là à ce moment-là et que ce soit l'homme de sa destinée par rapport à son ministère. Elle a dû prier en langue parce que Dieu, à cause de son ministère, et ce n'est pas toujours le cas, On ne peut pas tous dire Dieu a une personne unique pour nous, elle est à tel endroit, ceci, cela. Mais ça arrive parfois, oui, à cause de certains appels, oui. Dieu a une personne particulière, précise pour nous. Mais on ne peut pas dire que tout le monde c'est comme ça. On est tous des Rebecca, on est tous des Isaac, on est tous des... Je ne vais pas donner d'autres noms, mais... En gros, elle priait en langue. Je ne veux pas m'écarter. Et pendant qu'elle priait en langue, Dieu a agencé et Dieu lui a révélé que c'est sa prière en langue qui l'a fait rentrer dans ce mariage si particulier. Nous devons prier en langue, frères et sœurs, quels que soient nos besoins. Et toutes sortes de prières, je finis là. Et l'autre passage, c'est les supplications. La supplication, c'est tellement important. C'est tellement important. L'apôtre Jacques va dire... La prière fervente du juste est d'une grande efficacité, mais il n'a pas dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Il a dit la prière fervente. La prière fervente, c'est la supplication. La supplication, ce n'est pas « Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, s'il te plaît ». Non, ce n'est pas ça la supplication. La supplication, c'est cette prière qui vient du cœur, cette prière qui vous engage, cette prière où on ne prie pas du bout des lèvres avec la pensée ailleurs, cette prière où vous êtes là, concentré. Dans le lieu secret, comme parle Jésus, où votre Père céleste vous voit, et vous priez avec votre cœur, vous priez avec les choses qui comptent pour vous. Vous ne priez pas pour prier, vous priez avec ce qu'il y a à l'intérieur. Cette prière de supplication. Avant d'aller, quand il y a un problème, voir un homme, avant d'aller voir le pasteur, on devrait tous rentrer en nous-mêmes, nous arrêter un instant, aller dans le lieu secret et faire cette prière de supplication parce qu'on se sent concerné dans la situation. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, lorsqu'on est concerné par un problème, notre premier réflexe, c'est pas d'aller voir notre Créateur et notre Dieu et de faire une prière de supplication où on lui parle de cette chose importante dans notre vie. Notre plus grand réflexe à tous, c'est d'aller se plaindre aux uns aux autres et de nous lamenter autour de nous. Frères et sœurs, ne soyons pas ainsi. Prions sans cesse en esprit. Faisons toutes sortes de prières et des supplications, des prières de supplication. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et en plus de cela, l'apôtre Paul nous dit « priez pour les autres ». J'arrive pas à prier. Oui, mais si on n'arrive pas à prier, c'est parce que peut-être aussi on est centré sur nous-mêmes dans nos prières. Et c'est une chose qui ne favorise pas non plus l'action et la manifestation de la présence de Dieu que de prier pour soi et soi et soi. Parce que la Bible dit, au travers de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, ne considérez pas vos intérêts uniquement, mais considérez également ceux des autres. La Bible dit également, ne vous considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Comment continuerai-je à prier pour moi si le frère Eric est supérieur à moi par le Saint-Esprit qui est en moi ? Ça voudrait dire que je devrais trouver plus de zèle pour prier pour le frère Eric que pour prier pour ma destinée. Et quand on fait ce genre de choses, quand on livre sa vie pour les autres dans la prière peut durer très longtemps. Parce que si vous prenez le bottin de l'église, l'annuaire de l'église, et vous prenez chaque nom, et que chaque soir vous priez pour 5 personnes de tout votre cœur, je peux vous assurer que la présence de Dieu va s'intensifier dans votre vie, ça c'est certain. Mais en plus, votre prière va durer longtemps. Surtout si vous savez les défauts de la personne. Et vous savez ce qu'il faut demander à Dieu pour que cette personne devienne meilleure. Toutes ces choses contribuent à favoriser l'atmosphère de la présence de Dieu dans notre vie. Enfin, voilà comment prier. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens au chapitre 6. Et juste pour finir, là c'est vraiment le dernier point. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et louez Dieu et louez le Seigneur de tout votre cœur. Je vais relire. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantez et louez le Seigneur de tout votre cœur. Il y a un autre défi qu'on doit vivre dans notre génération aujourd'hui, qui nous empêche d'être remplis du Saint-Esprit. Et je le dis haut et fort, écoutez-moi bien, l'inspiration me vient, je le dis haut et fort, c'est que nous laissons les gens chanter à notre place. Vous avez compris ? On met un CD de Terry McAlmon. On met un CD de Pasteur Jean. Le nom de l'album, c'est Inoubliable, disponible sur enseignement.com. Tous ceux qui écoutent ce message, 1000 vues, achetez l'album. Ou Patrick édite. Mais on laisse les hommes de Dieu chanter à notre place. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit et Dieu va être touché parce que c'est Pasteur Jean qui chante pour vous? C'est impossible. Non, c'est vraiment impossible. Parce qu'en ce moment-là, où Pasteur Jean chante, le CD chante, ce n'est pas Pasteur Jean qui est en train de chanter. C'est la voix de Pasteur Jean qu'il a enregistrée qui est en train de chanter. Mais le Saint-Esprit regarde au cœur. C'est vrai qu'un CD de louange peut vous transporter dans la présence de Dieu, c'est bien de mettre. Mais ne comptez pas sur ce chant que la personne est en train de chanter pour remplacer le chant que nous devons faire monter vers Dieu. Parce qu'au moment où l'apôtre Paul a écrit cette lettre inspirée par le Saint-Esprit, il dit que ce qui entretient la présence de Dieu dans notre vie, ce sont les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels que nous chantons. Et à l'époque, il n'y avait pas de lecteur CD. Et sinon, il aurait dit qu'un tel chante pour toi. Mais non, c'est vraiment ce qu'on chante. Et je l'ai expérimenté, et certainement vous aussi. Le chant va nous transporter. Les CD vont nous créer une atmosphère qui va nous aider. Mais si on veut être rempli du Saint-Esprit, écouter simplement le chant, ce n'est pas possible. Ce qui compte, c'est ce qui sort de notre bouche, ce qui vient de notre cœur. Donc nous devons tous vraiment connaître au moins trois chants par cœur. Ce n'est pas normal si on n'a pas au moins trois bons cantiques, trois bons hymnes qu'on maîtrise. Il y en a, c'est le bon vieux « Alléluia ». Ça leur transporte dans la présence de Dieu, mais d'autres pas du tout. Moi, j'en ai quelques-uns. Dès que je chante, c'est bon, ça me connecte. Mais il y en a d'autres. Moi, par exemple, les chants pop-rock, j'aime vraiment pas ça. Je suis de la vieille école, plutôt les musiques douces. Mais il y a des pop-rock bien, hein, les Jesus Culture, Hillsong, tout ça, c'est bien. Mais moi, j'ai du mal, c'est pas ma fibre. Vous, c'est peut-être votre fibre. Alors chantez un chant d'Hillsong si vous arrivez à entrer dans la présence de Dieu avec Hillsong. Moi, je n'y arrive pas. Parce que déjà, j'ai du mal à mémoriser les paroles. C'est compliqué, c'est en anglais. Mais si il y a des petits cantiques, des bons vieux cantiques, des assemblées de Dieu, des ailes de la foi, c'est... Non, mais je vous assure, ils sont loin ces cantiques. Vous les remixez un peu quand vous les chantez, mais les paroles sont profondes. Vous êtes dans un temps difficile, je chante mal, mais c'est juste pour illustrer. Et là, moi, j'ai un chant, vraiment, c'est... Vous allez rire. Mon seul abri, c'est toi. Et quand je commence à chanter ça, mes soucis me quittent. Mon âme est libérée et la présence de Dieu s'installe. Mais c'est mon chant. Je le connais par cœur et je le chante. Et j'en ai plein comme ça, une dizaine. Et chaque fois que j'en chante certains, ça me connecte, ça entretient la présence. Donc, que personne dise « je suis en tout temps rempli du Saint-Esprit » s'il ne chante pas ou il ne s'entretient pas par des hymnes, des psaumes ou des cantiques ou une vie de louange d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des paroles ou par des chants, ce n'est pas possible. Il faut avoir une vie de louange et de reconnaissance envers le Seigneur. Donc, l'adoration a une place plus que primordiale dans notre vie de prière si on veut expérimenter la présence de Dieu. Même plus que primordiale, elle est indispensable. On doit adorer par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et louant Dieu, pas du bout de nos lèvres, mais de tout notre cœur. Alors oui, la présence de Dieu va s'intensifier. Alors oui, donc j'ai fini. Et pour récapituler, on a l'apôtre Jacques qui nous dit « Ok, approchons-nous de Dieu dans la prière. » La prière, on a vu comment prier. Être endurant dans la prière. Mais il dit aussi, vous approchez pas de n'importe quelle manière. Dieu est saint, le Saint-Esprit est saint, il est dans votre esprit. Si vous voulez qu'il se mêle à la dimension naturelle de votre être, dans votre corps et dans votre âme, il va falloir sanctifier nos mains, sanctifier notre corps, sanctifier nos actions et sanctifier notre cœur, c'est-à-dire nos pensées, notre être intérieur. Frères et sœurs, ne méprisons pas les prophéties que nous avons reçues. Ne méprisons pas, surtout pas, les messages et les exhortations que Dieu nous a donnés ces derniers dimanches. Mais saisissons-nous d'elle. Emparons-nous d'elle comme des paroles venant directement de la parole de Dieu, du réma de Dieu, et marchons dessus. Prenons Dieu au mot. Prenons Dieu au mot. Approchons-nous de lui. Sanctifions-nous. Et il nous a dit qu'il s'approchera de nous. Et sa présence s'intensifiera. Et nous vivrons des choses extraordinaires dans sa présence. Des choses non plus naturelles. Parce qu'on peut réussir une vie chrétienne dans le naturel. On peut accomplir des exploits naturels dans le naturel. Mais ce qu'on veut, c'est vivre dans sa présence. C'est vivre ce que Jésus vivait. C'est vivre ce que les apôtres vivaient. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.